Dans cette édition, on suit cette table ronde au sujet des personnes LGBT qui a débuté ce matin. On vous présente également un nouveau salon pour les artisans avant de nous intéresser à la santé de nos sportifs. Et ce journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous.
Une table ronde à l'UPF.
Elle a été lancée ce matin à l'initiative du gouvernement et elle a pour but de dresser un premier état des lieux sur la question des droits LGBT+ dans la région. Alors gay, lesbienne, bi, trans ou queer, des questions qui concernent beaucoup de monde dans le Pacifique et qui présentent beaucoup de défis. Autour de la table à l'université, des représentants du pays bien sûr, d'associations polynésiennes, des chercheurs mais aussi des ambassadeurs néo-zélandais, australiens et même français, avec Jean-Marc Berton, ambassadeur spécial pour les droits LGBT. Premier atelier ce matin sur les particularités océaniennes du mouvement, mais aussi sur le positionnement de la Polynésie comme une destination gay-friendly. Car si les droits LGBT divisent toujours la classe politique locale, notamment sur le sujet des unions homosexuelles, la vice-présidente Eliane Tevahitua rappelle que la Polynésie française est bien plus avancée sur la question que beaucoup de ses voisins.
Que ce soit au niveau du Tavini ou ailleurs, c'est une question qui fait débat dans toute la société, que ce soit parmi les Tavini ou je suppose aussi parmi les autonomistes. Mais il est évident que, heureusement que dans notre pays, l'homosexualité ne fait pas l'objet de, comme on le voit dans certains pays océaniens, où c'est considéré comme un délit, ou heureusement nous avons la chance d'être ici en Polynésie française, ce n'est pas le cas.
Eliane Tevahitua qui fait donc partie des organisateurs et des intervenants de cette table ronde de deux jours. Parmi les thèmes au programme, l'influence des médias sur les revendications LGBT, les questions de santé, que l'on parle de VIH ou d'opérations de changement de sexe, le défi de l'éducation bien sûr, mais aussi la place de la religion dans ce dossier sensible.
Donc nous aurons des religieux en quelque sorte, hein, qui vont participer aussi au débat sur la place des LGBT dans la société. Voilà. Et donc c'est une façon de mettre à plat tous les problèmes s'il y en a et de parler de manière franche.
Un débat franc donc à l'UPF et puis sur notre plateau aussi, puisque nous recevons jeudi à 11h30 des participants à cette table ronde. Ce sera en direct sur Radio 1 et sur Tiale FM.
Le Hilton de Moorea revient dans les mains du groupe Van.
Oui, l'autorité polynésienne de la concurrence a validé la prise de contrôle du Resort & Spa par le groupe conjointement avec le groupe Hilton. C'était déjà Louis Van, aussi propriétaire du Sofitel Moorea, qui avait vendu en 2016 l'établissement de l'île sœur au groupe Hainan, qu'il avait lui-même cédé au groupe Dazong l'année dernière. Depuis, il était à vendre.
Un festival des savoir-faire du Pacifique se prépare.
Oui, il s'agit d'un nouveau rendez-vous pour les artisans. Appelé Festival Firiatao, il aura lieu dans les jardins du musée de Tahiti du 22 au 25 novembre. Au programme donc, 4 jours d'exposition avec 58 artisans venant de Tahiti et des archipels, mais aussi 10 étrangers. Ils arriveront de Nouvelle-Zélande, d'Hawaï, de Rapa Nui, de Fidji ou encore de Wallis et Futuna. Les explications d'Eliane Tevahitua, ministre de la Culture, qui répond à Vaitiere Pereire.
Cet événement Firiatao est une innovation. C'est la première fois qu'on va inviter des artistes et artisans océaniens à venir se joindre à nous pour un partage d'expériences, que ce soit en matière de vannerie, de tapas, de sculpture, etc. C'est d'abord cela. Mais bien sûr qu'en second plan, il y a l'activité commerciale, ce que ça peut rapporter aussi aux artistes et aux artisans.
Et 5 espaces sont prévus, avec des ateliers de démonstration, des tables rondes, des projections de documentaires, des débats et des conférences. Il sera aussi possible, par exemple, de créer des bijoux avec des coquillages ou de découvrir le tressage. Une mise à contribution du public qui vise à insuffler une certaine dynamique autour du secteur, comme nous l'explique Vaiana Giraud, directrice de l'artisanat.
On veut créer une dynamique. D'abord, si on peut créer des vocations, si demain il y a davantage de Polynésiens qui se lancent dans l'artisanat en se disant « mais c'est ce que je veux faire et quand je vois les artisans travailler, ça me plaît, ça sera déjà formidable ». C'est aussi une dynamique vers des visiteurs qui vont davantage être des acheteurs, mais qui vont comprendre peut-être davantage pourquoi ça peut être cher, un objet d'artisanat traditionnel, le temps que ça demande, le coût que ça représente, la fragilité de la matière première. Donc c'est tous ces enjeux-là que les visiteurs vont pouvoir aussi mieux comprendre au travers de ce festival.
Des visiteurs qui sont donc attendus nombreux, on le rappelle, au musée de Tahiti et des îles du 22 au 25 novembre.
Et en Nouvelle-Calédonie, la première barrière anti-requins va être installée.
Oui, les travaux d'installation de cette infrastructure inédite sur le caillou viennent tout juste de commencer sur la plage très fréquentée de la baie des Citrons. La mairie espère que ce filet sera opérationnel d'ici mi-novembre, alors que le territoire a connu une série d'attaques en début d'année. Longue de 758 mètres et large de 200 mètres, cette barrière offrira un plan d'eau d'une surface de 10,2 hectares sur une profondeur maximale de de 6 mètres et elle doit permettre le passage des poissons tout en excluant les espèces de grande taille. Une installation qui divise les Calédoniens, notamment au sein des associations environnementales, ce qui n'a pas empêché la mairie de Nouméa de voter hier pour l'installation de deux autres barrières sur d'autres plages de la capitale calédonienne. Elles devraient être installées l'an prochain.
Et le budget consacré aux Outre-mer devrait augmenter.
Oui, à Paris, l'Assemblée nationale a examiné les crédits consacrés aux Outre-mer dans le projet du budget 2024. Alors la séance a été levée peu après minuit sans que les députés aient pu étudier l'ensemble des amendements déposés et voter sur ces crédits. On sait déjà qu'ils devraient être en hausse de 7% par rapport à 2023 et que l'accès à l'eau dans les territoires ultramarins a occupé une bonne partie des discussions. La suite des débats est programmée les 19 et 20 novembre, mais les oppositions ont pressé le ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier, de dire si les amendements votés allaient être retenus in fine, alors que plane la menace de l'article 49.3 qui pourrait être dégainé d'ici là par le gouvernement pour faire passer l'ensemble du projet de budget de l'État sans vote.
Et on revient sur la 30e Viking Week.
Oui, elle s'est terminée ce week-end à Bora Bora, mais elle continue d'animer les discussions, notamment en raison des incidents et accidents physiques ou médicaux qui ont émaillé la course. Pour en parler, nous avons tendu le micro au docteur Didier Bondou, qui suit tous les ans la Viking Week auprès de l'équipe Shell. Le médecin le rappelle, au Vaha, on n'est pas dans une salle de sport, mais sur un plan d'eau où un petit problème de santé peut avoir des conséquences dramatiques. Prévenir, voilà donc l'objectif. Mais si beaucoup est fait dans les grandes équipes, personne n'est à l'abri du pépin.
Initialement, il y a eu un arrêt à Jake, un problème digestif. Il ne pouvait absolument pas rester sur le Vaha, donc il a été amené à sortir du Vaha. Donc, ce qui a amené les cinq autres à vouloir absolument remonter le rythme pour perdre un minimum de temps sur les équipes qui les précédaient. Je pense qu'ils ont puisé leur énergie, dont Keoni, qui a participé à la veille à la course. Donc, je pense que c'est un facteur en fait, de choses, une succession d'événements qui a fait que Keoni a eu des crampes et ne pouvait absolument pas continuer.
Des indigestions, des crampes, des incidents récurrents dans les grandes courses, comme d'ailleurs les états de déshydratation ou d'hypothermie avancée, souvent constatée à l'arrivée. Le décès de Kevin Quider, après ce qui semble être un AVC en début de course, était lui beaucoup plus inédit. De quoi alimenter toutes sortes de théories. Didier Bondou rappelle qu'un problème neurologique peut malheureusement arriver à tout âge et à tout moment. Il note aussi que tout le monde dans l'entourage du jeune sportif le décrit comme un athlète fermement opposé au dopage, qui existe bel et bien dans le monde du Vaha et du sport polynésien et qui présente des risques importants. Le médecin qui profite aussi du micro pour mettre en garde en dehors des produits illicites sur les boissons énergisantes qui seraient surconsommées chez les rameurs.
Et c'est des stimulants, mais des stimulants qui sont à la fois trop sucrés, donc déshydratants. Ça donne soif aux sportifs. Donc si on ne se méfie pas, au contraire, c'est un effet délétère, ça déshydrate le sportif. Ça fait tachycardie, c'est-à-dire qu'au lieu de rendre le cœur un peu plus lent dans une compétition comme celle-ci, ça emballe le cœur, ça excite. C'est un excitant. C'est bourré de caféine et de taurine dans une boîte de nuit. Pourquoi pas sur un terrain de sport, jamais.
Voilà, les boissons énergisantes à ne pas confondre avec des boissons énergétiques plus adaptées aux sportifs. Toute l'interview du docteur Didier Bondou, le médecin de Shell Vaha, est à retrouver sur radio1.pf.
Et les pompiers de Punaoya se dévoilent dans un calendrier 2024 plus sexy.
Ah oui, pour la deuxième année consécutive, l'amicale des sapeurs-pompiers de la commune a décidé de mettre en vente un calendrier. À moins de deux mois de la nouvelle année, ils ont dévoilé leur nouvelle maquette pour 2024 et fini le calendrier avec seulement des clichés un peu plan-plan de pompiers en tenue. Et bonjour les prises de vue les plus osées, écoutez.
On a voulu innover et demander aux sapeurs-pompiers qui le souhaitaient de poser un peu torse nu, mais après on a aussi autorisé les personnes qui voulaient poser en t-shirt, hein, on n'a pas fait de différence. Donc il y a un peu un mix des deux, des gens torse nu et des gens en tenue de pompier. Parce qu'après on a eu des retours sur la vente de l'année dernière où les photos demandaient d'être un peu plus sexy en fait. Du coup on a pris les modèles des Canadiens et des Américains où ils font ça chaque année. Donc on s'est dit allez, on va essayer cette année, on va essayer d'innover. Donc on espère que tous nos calendriers vont partir cette année.
Jonathan Date, le président de l'amicale, il est au micro de Vaïtière et Pereire. 3000 exemplaires ont été imprimés cette année et les soldats du feu espèrent, grâce à cette stratégie, faire partir tout leur calendrier. Alors pas de prix fixe pour l'acquérir, mais selon les pompiers, les gens versent en général au moins 500 francs. A noter qu'une partie des bénéfices récoltés sera reversée à l'association Entre Deux Mondes qui œuvre en faveur des autistes en Polynésie. L'autre partie des fonds servira entre autres à offrir le premier Noël des enfants de pompiers de la commune. Des calendriers disponibles à la vente depuis hier et jusqu'à vendredi de 8h à 16h dans la galerie du centre commercial Carrefour Punaoya et samedi et dimanche prochain au magasin Auchan Tamanou, toujours à Punaoya. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir écouté. Retour de l'actualité avec votre flash de 16h.
Merci beaucoup Valdemar.